Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Musique. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir, bienvenue à l'écoute Radio Téhéran en ce mardi 26 juillet 2022. Je vais vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le navire Soleimani rejoint la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Un drone de l'armée turque a été abattu. 5 forces militaires de sécurité sont tuées. Sommet Afrique centrale en RDC. Les questions sécuritaires au cœur de la rencontre. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le navire Soleimani rejoint la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Le contre-amiral Alireza Tanksili a fait état lundi 25 juillet de la mise en service du navire Soleimani, fabriqué à part d'équipements domestiques au cours des 3 dernières années qui ont suivi le martyr du commandant-chef de la force ROTS du CGRI, le général de corps d'armée Rassem Soleimani. La marine du CGRI déploie également des vedettes furtives de fabrication nationale, a déclaré le contre-amiral Alireza Tanksili. Le général Tanksiri a déclaré que le corps des gardiens de la révolution islamique avait équipé les coques de ses navires de guerre les plus rapides d'une technologie furtive. Le commandant de la marine du CGRI, Alireza Tanksiri, a tenu ses propos en marge d'une cérémonie organisée dans la ville portuaire de Bandar Abbas, dans le sud de l'Iran, et a précisé que le CGRI cherchait à présent à utiliser des coques de production domestique. Il a noté qu'utiliser des technologies et des produits locaux et recourir à des experts iraniens faisait partie des réalisations dont la marine du CGRI était fière. La marine du CGRI est une force navale stratégique complète, munie de tout l'équipement auquel les autres forces armées ont accès, des chars aux avions en passant par les drones, a-t-il indiqué, ajoutant que sa présence dans la région permettrait de dissuader les forces ennemies. Il a également accusé les Américains de ne pas respecter les lois maritimes et de navigation, mais aussi de saper la stabilité et la sécurité de la région, espérant une nette amélioration après le départ des forces étrangères de la région. L'Iran lancera un nouveau porte-satellite dans l'espace d'ici la fin du calendrier iranien, mi-mars 2023. Selon le commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, le drone de fabrication iranienne baptisé Gaza fait partie de l'un des milliers de projets de cette instance. Les Américains ont reconnu que leur supériorité aérienne a été brisée sur l'industrie de drones après 80 ans. C'est félicité ce dimanche, 24 juillet, le général de brigade Amir Ali Hajizadeh en marge d'une cérémonie à Téhéran. Quant à la normalisation de certains pays avec le régime sioniste, le général Hajizadeh a déclaré « Certains pays ouvrent leurs portes alors que ce régime est une tumeur cancéreuse. Tôt ou tard, ils souffriront de problèmes majeurs, mais nous observons ce processus dans un silence complet. » Le commandant de la force aérospatiale du CGRI a évoqué les directives du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Ali Khamenei, sur le renforcement de la puissance de drones. La puissance drone est une nouveauté et les Iraniens ont leur mot à dire sur ce plan. Plus loin dans ses propos, il a fait part de la décision de l'Iran d'envoyer un nouveau porte-satellite local dans l'espace d'ici la fin de l'année en cours du calendrier persan, mi-mars 2023. Par la volonté de Dieu, nous lancerons le nouveau porte-satellite Raem dans l'espace d'ici la fin de l'année. A-t-il fait savoir, soulignant que cette démarche s'inscrit dans le cadre des progrès du pays dans le domaine de la technologie aérospatiale. Il a noté que l'ennemi admet aujourd'hui les capacités militaires de l'Iran, tout en affirmant que la République islamique d'Iran, ses forces armées et le CGRI ont une position précieuse et une réelle supériorité. En allusion au plan visant à renforcer la puissance de l'Iran dans les secteurs des drones et de la défense antimissile, le général Ajizadeh a déclaré que les États-Unis ont déclaré que les industries de l'aérospatiale, des drones et des missiles l'emporteraient sur l'énergie nucléaire. Le général Ajizadeh a également félicité les experts militaires iraniens pour avoir développé des produits innovants tels que des missiles sol-air basés sur des drones à des fins de défense aérienne. Dans le nord de l'Irak, le bilan des pertes s'alourdit pour la Turquie. Un drone a été abattu et 5 forces militaires et de sécurité ont été tuées. Les jours ne semblent pas prometteurs pour Recep Tayyip Erdogan. 5 forces militaires turques ont été tuées dans le nord de l'Irak. Le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a affirmé qu'un militaire et 4 forces de sécurité ont été tués lors de l'opération Griffe-Foudre contre le PKK dans le nord de l'Irak. Il n'a pas divulgué plus de détails. Par ailleurs, un drone turc a été abattu toujours ce 25 juillet à Douk, dans le nord de l'Irak. Il n'est pas encore précis qui ou quel groupe a mené cette attaque. L'armée turque utilise des drones pour cibler les éléments du PKK dans les montagnes de Radil et de Sinjar. Sachez également qu'une attaque a été menée dans la soirée du 25 juillet sur le champ gazier de Kormor à Sulaymaniyah dans le nord de l'Irak. Des individus à l'identité inconnue ont visé le champ gazier de Kormor avec 2 roquettes de 107 mm, a annoncé Sabre News. D'autres sources d'information parlent du tir de 5 roquettes Katyusha sur ce champ où la compagnie pétrolière émiratie Dana Gas est active. Le champ gazier Kormor avait également été visé par roquettes le 25 juin dernier, soit la 3e attaque de ce genre. À l'époque, le porte-parole de Kataib Hezbollah a précisé que des groupes liés au service de renseignement turc se trouvant à Tuz Hormatu menaient ces attaques contre les champs gaziers du Kurdistan. Le président français Emmanuel Macron est arrivé lundi soir 25 juillet à Yaoundé au Cameroun, la première étape d'un voyage de 4 jours en Afrique. Il y rencontrera son homologue Paul Biya. Début de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, le président français est arrivé lundi au soir à Yaoundé pour sa première visite au Cameroun et en Afrique centrale avec l'objectif de relancer les relations politiques et économiques entre les deux pays en perte de vitesse. C'est le premier déplacement du président français sur le continent africain depuis sa réélection en mai dernier, mais aussi la première visite d'un chef d'État français à Yaoundé depuis 2015, quand François Hollande s'y était rendu. La visite d'Emmanuel Macron intervient alors que la France, ancienne puissance coloniale, voit son influence s'éroder, en particulier sur les plans économiques et commerciaux, face à la Chine, l'Inde ou l'Allemagne. Les entreprises françaises ne pèsent plus qu'environ 10% de l'économie contre 40% dans les années 1990. Le but affiché de cette visite est également de nouer de nouveaux partenariats agricoles avec le Cameroun, première économie d'Afrique centrale, alors qu'une crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine menace le continent. L'enjeu est également stratégique. La Russie courtise le Cameroun. Les deux pays ont signé un accord de coopération militaire en avril dernier. La 21e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est ouverte ce lundi 25 juillet à Kinshasa, sous la présidence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, président en exercice de cette communauté économique régionale. Au menu des discussions à huis clos, les chefs d'État et de gouvernement étudient le rapport et les recommandations du Conseil des ministres. Recommandations portant sur le suivi des progrès de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en matière de sécurité, d'intégration régionale et de politique énergétique. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. We'll be right back. Israël, la furtivité ratatinée. Ce dimanche 24 juillet, à peine une vingtaine de jours après avoir perdu lamentablement une première bataille aérienne dans le ciel de la Méditerranée orientale, et ce, face à un triplé de drones du Hezbollah, visiblement de type Ababilan, qui, pénétrant l'espace aérien de Karish, ont réussi à mettre au pas le radar ANAPG-81, qu'on dit être un radar à balayage actif aux capacités de guerre électronique extrêmement robustes, avec à la clé l'interception des cibles en mode RR ainsi qu'en mode air-sol, et tout ceci à l'aide d'une cartographie haute résolution. Les F-35 d'Israël ont fait leur apparition non pas au large de l'entité, mais quelques centaines de kilomètres plus loin, en Italie. Pourquoi faire? Vu l'échéance fixée par le secrétaire général du Hezbollah pour une escalade militaire majeure Israël-Résistance qui, si Karish n'est exploitée par le Liban, aura lieu au plus tard avant septembre, date à laquelle l'Europe aura fini de bourrer ses réserves de gaz, escalade où, dixit le tout dernier discours de Nasrallah, prendrait part tout l'axe de la résistance, l'observateur a toutes les raisons du monde de miser sur une démonstration de force. Or, voilà que cette démon de force se déroule dans de très curieuses conditions, comme si ce fleuron de la flotte aérienne sioniste que Lockheed Martin nous a vendu pendant des années comme étant furtif avait bien pâti de son tout récent face-à-face aérien avec les trois drones du Hezbollah, qui, rappelons-le, étant tous les trois de type de reconnaissance, lui ont échappé sans que le F-35 Adir soit capable, ne serait-ce qu'une seule fois, de tirer en mode RR. Et voici ce curieux tweet de l'armée sioniste couvrant l'exercice. Un exercice dont le remarque a eu déjà lieu le 29 mai, quand l'armée de l'air israélienne avait fait décoller à Chypre ses 30 et quelques F-35 Adir, et ce, dans le cadre de son exercice anti-iranien Chariot de Feu, où Israël a eu même la prétention d'avoir corrigé l'un des plus sérieux handicaps du chasseur de 5e génération, si évidemment il devrait un jour partir bombarder les sites nucléaires iraniens, à savoir la question de son ravitaillement. L'armée de l'air israélienne a commencé un exercice aérien conjoint avec l'armée de l'air italienne baptisée Lightning Shield. L'exercice d'une semaine verra la participation de 4 avions de combat furtifs italiens F-35 volant aux côtés de plusieurs avions israéliens F-35I Adir du 116e escadron Lions du Sud et du 140e escadron Golden Eagle de la base aérienne de Nivati. L'exercice est une étape importante dans l'établissement d'une coopération entre les armées tout en renforçant la relation unique entre les pays. Menaces en temps réel, boucliers de tonnerre, réseau F-35I Adir, n'est-ce pas que l'emblématique chasseur US-Israël qu'on fait passer pour être unique au monde à chasser et à traquer les cibles les mieux barricadées sans être vu, y compris les sites nucléaires les mieux enfouis sous terre, quitte littéralement sa posture offensive pour se réduire en une DSA aux fonctions hésitantes et qu'il faut appuyer et exercer, non pas dans le cadre du CENTCOM où Israël vient de faire son entrée, mais sous la label de COM dominé par l'OTAN. Plus d'un analyste y verrait les secousses telluriques de ce revers du 2 juillet sur quoi l'industrie aérienne US-Israël s'est tue, mais qui continue à le hanter après que le F-35 israélien aurait été repoussé au-dessus de Karish par les drones du Hezbollah. Mais ce n'est pas tout, car à ce bouclier de tonnerre, nom qui indique on ne peut mieux l'état de qui-vive où est désormais acculée l'armée de l'air israélienne, participe, selon le tweet, un Gulfstream G300, soit un labo électronique volante. Signe que le 2 juillet, le Adir sioniste avait été non seulement incapable de placer un seul missile RR contre les drones Ababil du Hezbollah, mais encore que côté interception, la cécité totale a primé. D'où la question suivante. Mais qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire, le drone Ababil II, Mersadin du Hezbollah, pour pouvoir neutraliser un F-35I, drone dont la portée est à peine 200 km et la vitesse 220 km par heure, et tout ceci pour une endurance d'1,30 et une altitude de vol de 11 000 pieds. On sait que sa navigation, il le fait à l'aide d'un système GPS INS et qu'il peut être télépiloté ou automate. Mais tout ceci ne fournit aucune explication convaincante sur le méga ratage que fut celui des F-35 Adir à Karish, à moins de prêter à Ababil une capacité de guerre électronique plus étendue que celle du F-35I, ou voir son action drapée d'une forme de boulier de guerre électronique. Les chasseurs, les mieux lotis d'Israël, sont-ils exposés à l'impact d'un pareil système qui leur paralyserait l'action?
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat, diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, le débat d'aujourd'hui, donc, il s'agit de la visite, et surtout des visites des responsables israéliens au Maroc, et surtout la dernière visite, il s'agissait de la visite de l'état-major israélien dans ce pays. Alors, selon beaucoup d'experts politiques, donc, il est là pour parler du développement des coopérations bilatérales dans différents domaines. Mais à vrai dire, il est là pour une autre attention. C'est vrai qu'après l'échec de l'OTAN au Moyen-Orient, Israël cherche par tous les moyens de trouver une consolation face donc de certains pays après ces échecs multiples face à la résistance. Il est aussi question de l'Algérie, le voisin du Maroc, qui marque une avancée militaire sans précédent, à l'aide bien sûr de la Russie, ce qui inquiète énormément Israël. Nous allons répondre à ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Selon des sources maghrébines, Rabat n'a pas été trop à l'aise à répondre via l'entité quand celle-ci lui aurait demandé de faire partie d'une coalition anti-résistance à vocation navale, surtout que cette résistance semble, depuis la parade du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne, avoir pleinement fait son entrée au Maghreb avec un Hamas assistant littéralement à la cérémonie militaire. Au fait d'Israël si actif ces derniers temps à Dakhla, cette zone ultra-stratégique située à deux pas de Sahara qui a une côte sur l'Atlantique et que convoite l'Amérique pour y installer une base navale, peut-il espérer un jour pouvoir créer une DCA intégrée en Méditerranée occidentale? Le site La Razón a publié un rapport important dans lequel il a parlé des capacités militaires navales de l'Algérie, exprimant une crainte notable de la marine algérienne qui, selon lui, est devenue la plus puissante de la région méditerranéenne. Le rapport souligne que l'Algérie s'est rapprochée militairement de la Russie, ce qui lui a permis d'acquérir des sous-marins capables de lancer des missiles et des missiles calibre capables d'atteindre Madrid depuis la Méditerranée, ainsi que des missiles Iskander et des avions russes de 5e génération qui sont les mêmes armes que Moscou utilise dans sa guerre contre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a plus. Sur les 6 missiles sous-marins algériens, 2 ont été réceptionnés depuis les années 80 et les 4 autres des Kilo 636 acquis et mis en service en 2010 et 2019. Les 2 plus anciens des Kilo 877 EKM ont été mises à jour au début des années 2000. Mais l'autorité algérienne prévoit d'acquérir 2,636 kilos.
Voilà, alors on a vu dans ce reportage l'avancée militaire considérable de l'Algérie. Nous allons nous concentrer des visites des responsables israéliens au Maroc et surtout la dernière de l'état-major israélien au Maroc. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam depuis Suède. M. Ahmad Rami, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Un plaisir de vous recevoir dans l'émission Le Débat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Ahmad Rami. Alors, cet état-major israélien en visite au Maroc, apparemment, il parle du développement des relations bilatérales dans différents domaines. Mais derrière cette visite se cache bien sûr la crainte d'Israël face à l'avancée militaire d'une part l'Algérie et d'autres voisins après les échecs contre la résistance. Que pensez-vous ?
Oui, vous avez raison. Il faut aussi, bien sûr, souligner la stratégie principale de l'entité sioniste et du sionisme dans le monde entier, hein, pas seulement au Moyen-Orient, au Maghreb. Et leur stratégie, c'est, ou bien, disons, leur fondement et les piliers du sionisme et d'Israël, c'est-à-dire le pilier numéro un, c'est l'infiltration. Et de l'intérieur, prendre le pouvoir dans tous les pays. Et l'entité sioniste a réussi à, depuis longtemps, à s'infiltrer, à occuper et à s'emparer du pouvoir au Maroc. Donc, ils ont réussi à faire la même chose en Arabie Saoudite, dans les Émirats, même en Égypte et en Jordanie, même en Turquie. C'est-à-dire que l'entité sioniste, en fait, essaye aussi, en même temps, de créer des guerres entre les pays arabes pour les affaiblir. Parce que ce qui constitue le danger numéro un contre l'occupation sioniste, c'est l'unité islamique. Hein. Donc, en s'emparant avec de ses pouvoirs, par exemple, dans les pays arabes et musulmans, comme par exemple dans les Émirats et dans le Golfe Persique, c'est qu'ils s'emparent du pouvoir là-bas pour, disons, déclencher des guerres qui n'ont aucun fondement, ni aucun but, ni aucune raison, contre, par exemple, l'Iran, à partir de l'Arabie Saoudite et des Émirats et dans la région. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui aussi au Maghreb. Au Maghreb, depuis longtemps, moi-même, j'étais dans l'armée au Maroc. Et quand j'étais dans l'armée au Maroc, j'étais officier dans les blindés. Et j'étais très étonné en entrant dans l'armée de trouver qu'Israël avait vendu au Maroc plus de 100 chars de fabrication française. D'ailleurs, ils étaient des vieux chars, assez abîmés. Mais c'était pour déjà préparer une guerre entre l'Algérie et le Maroc, c'est-à-dire déclarer une guerre contre l'Algérie. Donc, depuis longtemps, d'Israël, c'est de déclencher une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Pourquoi ? Parce que...
Oui, nous avons d'autres questions. Que... Oui. Monsieur Ahmad Rami, excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais connaître la position de M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Nous allons revenir à vous, M. Ahmad Rami. Mais bonjour, M. Luc Michel.
Bonjour, bonjour votre invité. Bonjour à vous-même. Donc, il faut revenir de cette affaire et que les relations avec Israël ne produisent absolument pas de paix, de prospérité économique, etc., mais la confrontation avec les voisins.
Oui, absolument. La confrontation, c'est ce que cherche Israël. Et alors, M. Ahmad Rami nous a parlé de l'influence d'Israël, bien sûr, dans les pays arabes. Et maintenant, l'état-major d'Israéliens qui est en visite au Maroc, cette fois. Est-ce que c'est une crainte à l'égard de l'avancée militaire d'Algérie, M. Luc Michel?
Écoutez, l'Algérie, aujourd'hui, est le principal allié de la Russie en Méditerranée occidentale. Et pour ce faire, elle est une cible de choix pour les impérialistes occidentaux. Pas seulement d'ailleurs pour Israël, mais surtout pour les États-Unis et l'OTAN.
Oui. Alors, M. Ahmad Rami, est-ce que vous avez entendu les propos de M. Luc Michel? Est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
J'ai très mal entendu. J'ai pas entendu ce qu'il a voulu dire.
Bon, principalement, il nous a parlé de l'Algérie, qui est la puissance la plus forte militairement au Moyen-Orient et l'allié principal de la Russie. Et c'est une grande crainte pour Israël, n'est-ce pas?
Disons, chaque pays dans le monde, pas seulement au Maghreb, qui essaie de se libérer d'Israël, il faut dire, c'est pas seulement en réalité. Les États-Unis sont aussi dominés par le lobby israélien, qui décide la politique israélienne. Donc chaque pays qui essaye de se libérer du pouvoir d'Israël constitue bien sûr une menace contre la stratégie d'Israël qui veut dominer tous les pays sans exception. Hein? Ça fait partie de l'idéologie sioniste. On connaît bien les piliers de l'islam. Hein? Le premier pilier de l'islam, c'est Shahada, croire en Dieu. Alors que le sionisme, le premier pilier, c'est l'infiltration. Le deuxième pilier, c'est de s'emparer du pouvoir. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle là s'emparer de la Palestine, ce qu'ils appellent eux la terre promise. Tous les piliers du sionisme constituent des déclarations de guerre contre toute l'humanité.
Absolument.
Et oui. Oui. Et c'est pour cela que le sionisme constitue un danger, et ce sionisme considère tous les pays qui essayent de se libérer de la domination sioniste comme un danger. Vous voyez?
Absolument. Oui. Monsieur Luc Michel, bon. Beaucoup d'experts politiques pensent que qu'après l'échec de l'OTAN au Moyen-Orient, Israël cherche par tous les moyens d'arriver à une consolation après ses échecs contre la résistance pour s'approcher davantage de certains pays, dont le Maroc. Que pensez-vous? Monsieur Luc Michel, est-ce que vous nous entendez?
Oui, il faut constater quelque chose. C'est que l'Israël, en arrivant ouvertement, en vendant des relations avec le Maroc, maintenant de façon ouverte, alors qu'auparavant elles étaient clandestines et occultes, n'apporte pas du tout pas la paix. Elle cherchait la confrontation. Le Maroc est l'otage de l'alliance de l'OTAN et d'Israël, bien entendu, puisqu'il sert de bélier contre l'Algérie. Et bien entendu, ça a des conséquences dramatiques pour la région.
Monsieur Ahmad Rami, est-ce que vous êtes d'accord avec ces conséquences? Est-ce que Israël a réussi ce qu'il cherchait à faire, c'est-à-dire de s'infiltrer et d'influencer ces pays-là?
disons que ce soit au Maroc, en Algérie, dans tous les pays, il y a toujours une résistance. C'est comme en Palestine, il y a une résistance au Maroc aussi. Donc Israël ne réussira jamais à s'imposer et à exister, à continuer. Parce qu'ils ont des, c'est ce que Iran, Israël inquiète. C'est inquiétant pour Israël que, puisque c'est un état d'occupation illégitime, donc condamné à disparaître, parce que la résistance, c'est la, se crée donc quand il y a une occupation. C'est une réaction légitime, automatique et naturelle. Donc cet Israël ne peut pas continuer à exister. Mais il faut savoir que les pays arabes aujourd'hui sont politiquement, les États arabes, je voudrais dire, sont politiquement occupés. Le Maroc est politiquement occupé par Israël. Celui qui a le pouvoir au Maroc, ce n'est pas le roi. Le roi est toujours en France un peu partout, il ne sait même pas ce qui se passe. Celui qui a le pouvoir au Maroc, c'est le sioniste, juif sioniste André Azoulay. C'est lui qui a le pouvoir, un Israélien, qui a un passeport israélien. Et à l'intérieur du Maroc, il y a une résistance, mais une résistance aujourd'hui faible, mais ça va grandir. Et cette résistance continue. Et la même chose, ils ont essayé aussi, de s'emparer du pouvoir dans tous les pays arabes musulmans et par l'infiltration, par la domination. Mais je ne crois pas du tout qu'Israël va réussir à continuer à occuper le Maroc ou à occuper l'Arabie Saoudite ou à occuper les pays du Golfe Persique. Donc je ne crois pas à cette... Bien sûr, Israël existe pas parce qu'il a le droit d'exister, parce qu'il est légitime, non, il existe parce qu'il est forte et parce que ses ennemis, ses victimes, c'est-à-dire les occupés, les Palestiniens, les Arabes et les pays arabes, sont faibles aujourd'hui. Mais cette faiblesse n'est que provisoire. Et que c'est ce qui inquiète Israël et qui essaie toujours. Mais c'est une. Depuis tous les temps, dans tous les pays, il y a toujours eu ce combat entre le pouvoir sioniste et les peuples dans la région. Hein, et dans tous les pays, dans tous les temps. C'est la même stratégie, la même tactique qui a mené à l'occupation de la Palestine oui. Et qui a mené à la création de la résistance palestinienne, dont aujourd'hui le résistant principal dans le monde entier, en réalité contre l'occupation sioniste, c'est la République islamique d'Iran.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Bah, écoutez, il y a une constatation à faire, c'est que Israël mène une politique de domination sur tout le Proche-Orient qui va maintenant jusqu'en Afrique du Nord, et dans tous les pays où elle agit, elle tourne les États arabes contre la politique qui serait la politique naturelle au service de leur peuple. C'est une politique colonialiste d'occupation qui tend à s'étendre et qui tend à dévier le cours normal géopolitique des États arabes.
Monsieur Luc Michel, jusqu'où cette domination a été réussie d'après vous? Est-ce que cela, ça va être empêché par certains alliés?
Je pense que c'est un échec. Il faut voir que la visite de Joe Biden au Proche-Orient, qui venait pour relancer les accords d'Abraham, puisque Biden marche sur les pas de Trump dans tous les dossiers de son politique, c'est un échec global, évidemment. Même les Saoudiens, qui sont le vieux complice des États-Unis depuis 1945, ont refusé de suivre. C'est devant cet échec qui est évidemment les Américains. Il faudrait savoir, évidemment, c'est un curieux rapport qui régit Israël et les États-Unis. C'est d'une part un parasitisme et de l'autre côté une osmose dans les deux sens. Israël est un porte-avions américain au Proche-Orient et les États-Unis sont le meilleur rempart du régime sioniste.
Monsieur Luc Michel, pourquoi Israël craint tant l'Algérie, par exemple, qui est militairement très forte? Pourquoi craindre ce pays-là, un voisin du Maroc?
Écoutez, parce que depuis l'indépendance en 1962, l'Algérie a une position, pan-arabe et pan-africaine, qui est une position digne et juste. Et jamais l'Algérie n'a abdiqué. Même quand ça a été la destruction de l'Union soviétique en 1991, l'Algérie n'a jamais cessé, par exemple, ses rapports d'amitié avec Moscou. Elle est aujourd'hui le principal élément de ce qu'on appelle l'acte Alger-Moscou, et qui vise justement à combattre l'hégémonie de l'OTAN en Méditerranée occidentale. C'est pour cela, de plus, l'Algérie, évidemment, a une politique d'amitié, de collaboration avec l'Iran, qui est littéralement l'obsession des Israéliens. Donc, évidemment, cette obsession s'est déplacée également sur l'État algérien.
Oui. Monsieur Ahmad Rami, vous êtes avec nous depuis Suède. Est-ce que vous voulez bien réagir face aux propos de Monsieur Luc Michel?
Oui, je suis totalement d'accord avec lui. Oui. Parce que, disons, maintenant, l'Iran constitue la résistance essentielle avec le Hezbollah, la Syrie et la résistance au Yémen. Donc, tout pays qui se rapproche ou qui a des bonnes relations avec la République islamique d'Iran, bien sûr, doit s'attendre à des réactions fortes de la part de la domination sioniste. Et il faut savoir que cette domination sioniste, cette infiltration sioniste, ne cherche même pas à se cacher. Biden, en visitant le Moyen-Orient, il a dit lui-même « Je suis sioniste. On n'a pas besoin d'être juif pour être sioniste. Moi, je suis sioniste. » Et le lobby juif aux États-Unis travaille ouvertement, et la même chose qu'au Maroc, Azoulay est officiellement le conseiller depuis Hassan II jusqu'à maintenant. C'est le seul continuel, disons, homme de pouvoir au Maroc. Il ne se cache pas, il est là, avec son nom, avec d'ailleurs sa fille, la fille de Azoulay, est aujourd'hui la présidente de l'UNESCO internationale. Lui, c'est-à-dire Azoulay, il a 4 passeports, 4 nationalités, française, israélienne, canadienne et marocaine. Donc, il domine aussi bien la France que le Maroc. Et de tous les pays, il n'y a pas un pays aujourd'hui, moi j'habite en Suède, ceux qui gouvernent la Suède, c'est-à-dire politiquement, ce sont des sionistes. Hein. J'habite en Suède et je l'ai toujours dit, j'ai écrit 5 livres sur ce sujet, dans lesquels d'ailleurs l'un des livres s'appelle « Le pouvoir sioniste en Suède hein. ». Et donc la Suède elle-même, où j'habite, est occupée politiquement par Israël. La France est occupée politiquement par Israël. Le Maroc est occupé politiquement par Israël. L'Arabie Saoudite est occupée politiquement par Israël. La Palestine est occupée militairement par Israël, mais politiquement, la Palestine est libre. C'est pour ça que la Palestine résiste. Et la République islamique d'Iran est politiquement libre. Et c'est pour ça qu'elle résiste contre la politique israélienne. Et ça veut dire qu'en réalité, la République islamique d'Iran combat pour une cause juste, pour la justice, pas seulement pour l'islam ou pour les pays arabes, pour la Palestine, mais pour le droit, pour la justice, qui est valable pour tous les pays. Voilà.
Monsieur Ahmad Rami, il est caché pour personne que vous avez toujours défendu ces principes dans votre radio Islam en Suède, n'est-ce pas?
Oui, bien. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé ma radio Islam, je considère que la question essentielle aujourd'hui dans le monde internationalement, c'est la question palestinienne. Et depuis que j'ai commencé Radio Islam, pour moi, pour juger quelqu'un, un État ou un individu, c'est savoir, comme celui posait la question, quelle est votre position vis-à-vis d'Israël? S'il est pour Israël, c'est un ennemi. S'il est contre Israël, c'est un ami. C'est comme j'ai l'habitude de dire, si Jésus Christ retourne aujourd'hui, la seule question que je vais lui poser, est-ce que vous êtes pour Israël ou contre Israël?
Absolument.
Israël est une occupation.
D'accord.
Donc, j'étais condamné à 6 mois de prison en Suède parce que j'ai critiqué Israël.
Bon, ça vaut tout dire, M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et un grand merci à M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles, d'avoir apporté beaucoup de précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Selon l'article 1 de la loi sur la protection des entreprises fondées sur les connaissances approuvée en Iran en 2019, ces entreprises sont définies comme suit. Les entreprises et institutions fondées sur les connaissances sont des entreprises ou des institutions privées ou coopératives qui sont créées afin de mettre en synergie les connaissances et la richesse, le développement d'une économie fondée sur le savoir, la réalisation d'objectifs scientifiques et économiques, y compris l'expansion et l'application de l'invention et de l'innovation et la commercialisation des résultats de la recherche et du développement, y compris la conception et la production de produits et de services dans le domaine des technologies supérieures à forte valeur ajoutée, notamment dans la production de logiciels pertinents. En Iran, l'un des critères pris en compte dans le processus d'évaluation et d'identification des entreprises fondées sur le savoir est de vérifier si les produits et services fournis par ces entreprises sont fondés sur le savoir. Depuis 2012, le processus d'application de la loi a été suivi sérieusement et une liste d'exemples de produits et de services fondés sur les connaissances a été fournie et est devenue la base de l'action. Pour préparer cette liste, des divers cas ont été examinés. L'un des cas a été l'examen d'expériences et de catégories, ainsi que les listes étrangères similaires préparées et présentées pendant de différentes années par des experts, des pays ou des organisations internationales. Parmi eux, on peut citer les catégories déterminées par certains centres de transfert de technologies dans le monde, dont le cadre proposé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et certaines autres études internationales, notamment les recherches de l'Organisation de coopération et de développement économique et la classification des statistiques des Nations Unies. La liste des marchandises faisant l'objet de sanctions par l'Union européenne et le Conseil de sécurité des Nations unies a également été l'un des documents importants qui ont été examinés dans ce contexte. dans la poursuite de ce processus afin de préparer une liste appropriée qui, en plus de prendre en compte le développement récent de la technologie au niveau mondial et d'autres documents et expériences nationales, a également une comptabilité nécessaire avec les dernières exigences locales et nationales. Un large réseau d'experts s'est formé et leurs points de vue à ce propos ont été pris en considération. La production de produits fondés sur le savoir est l'un des critères pris en compte dans le processus d'évaluation et d'identification des entreprises fondées sur les connaissances et par conséquent à cette fin, une liste de produits et services fondés sur les connaissances a été préparée et utilisée comme base d'action. Les conditions que les produits et services fondés sur les connaissances doivent avoir sont que ces derniers doivent être dans le secteur des hautes ou moyennes hautes technologies, ce qui signifie que les connaissances techniques de la conception et de la fabrication d'un échantillon de laboratoire ou la connaissance technique du processus de production du produit est difficile à copier en raison de sa complexité technique et l'accès à ce produit est l'un des principaux obstacles à l'entrée d'autres entreprises sur le marché. Une autre condition de ces produits est dont la production nécessite une recherche et un développement remarquable par une équipe des experts. Il convient de noter que la simple production de ces produits et services fondés sur les connaissances ne constitue pas une preuve de l'approbation de l'ensemble de l'entreprise. Selon le Code d'évaluation et de reconnaissance des entreprises et des institutions fondées sur le savoir, l'entreprise candidate doit disposer des connaissances techniques nécessaires pour concevoir ou développer des produits ou des services fondés sur les connaissances ou les connaissances techniques pour concevoir ou modifier fondamentalement leur processus de production complexe basé sur les activités de recherche et de développement. Les entreprises qui demandent à utiliser les avantages de la loi fondée sur les connaissances sont évaluées sur la base des règlements d'évaluation des entreprises et institutions iraniennes fondées sur les connaissances approuvés en 2016. Selon ce règlement, le résultat de l'évaluation de la société candidate est déterminé en fonction de l'évaluation des produits de la société. Il existe trois principaux critères d'évaluation des produits. En phase de production, l'entreprise doit avoir fabriqué son produit au moins autant qu'un échantillon de laboratoire. De plus, si le produit de l'entreprise est un service, les documents de vente du service doivent être fournis. Au niveau technologique, il est nécessaire que le produit de l'entreprise soit dans le domaine des hautes technologies, c'est-à-dire que les connaissances techniques de la conception du produit doivent avoir une grande complexité technique. Aussi, dans le domaine de la conception basée sur la recherche et le développement, il est nécessaire que l'entreprise ait réalisé une conception significative basée sur des activités de recherche et de développement sur le produit ou le processus de production. En Iran, plusieurs indicateurs sont utilisés pour identifier les entreprises fondées sur les connaissances. Ces indicateurs comprennent des indicateurs généraux et spécifiques. À titre d'exemple, les entreprises candidates doivent avoir 3 ans d'expérience au travail ou d'activité scientifique dans le domaine d'activité de l'entreprise, ainsi qu'au moins un brevet enregistré, évalué au niveau national et un brevet international lié au domaine d'activité de l'entreprise. En outre, les entreprises produisant des produits fondés sur les connaissances doivent être des producteurs de produits dont les connaissances techniques ont été nationalisées par le transfert ou la création de connaissances techniques par le biais d'activités de recherche et de développement.
Thank you.